On va donc parler de Job dans une perspective pastorale. Job, donc, j'ai intitulé cette présentation Job et le monde invisible. Pourquoi? Parce que dans une perspective pastorale, je crois que le livre de Job est le livre de la pratique pastorale. Étonnant de précision dans la description de ce que vit un homme dans sa souffrance et de comment est-ce que cet homme peut en être libéré et en sortir. C'est quoi le livre de Job? On va faire une toute petite minute d'érudition, en tout cas de savoir qu'est-ce qu'est Job dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, Tanakh, c'est Torah, Nabim, Ketuvim. Torah, Pentateuque, Ketuvim, Nabim, les prophètes, et Ketuvim, les écrits. Teneke, Tanakh, c'est la Bible des Juifs. Et donc, le Pentateuque, c'est la parole qui est révélée à Dieu. Les prophètes, la parole de Dieu révélée aux hommes. Les prophètes, c'est tous ces hommes qui ont été des porte-paroles de Dieu. Et donc, les prophètes pour les Juifs, c'est Josué, Juge, 1-2 Samuel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12. Ça, c'est les prophètes. Les prophètes, ce sont ces gens, comme Josué, qui ont dit au peuple, écoutez la Torah, écoutez le Pentateuque. Et les écrits, troisième grande partie, c'est finalement l'histoire de ces gens qui, en tant que collectivité, le peuple d'Israël, finalement, n'ont pas écouté la parole de Dieu et ont été rebelles pour un temps, puisque Israël reviendra et dans le royaume, finalement, il y aura ces 144 000 scellés qui, finalement, au milieu de qui Jésus le Messie reviendra, et comme on voit à la fin de Zacharie 12, et toutes les familles du pays se lamenteront, et les femmes à part. Hein, et la famille de Lévi se lamentera, et les femmes à part, et la famille de Dan se lamentera, etc. Toutes les familles se lamenteront, et on voit que tout le monde, en fait, est prêt, les 144 000 scellés, pour recevoir le Messie. En attendant, les écrits, les Ketuvim, c'est l'histoire de ce peuple qui n'a pas reçu, en fait, la parole de Dieu. Et dans ces écrits, il y a trois grandes parties. Il y a les cinq livres liturgiques qui sont lus tout au cours de l'année. Ces cinq livres, c'est Cantique des Cantiques, 1, Ruth, 2, Lamentation de Jérémie, 3, Ecclésiaste, 4, et Esther, 5. Et il y a une chronologie très intéressante, on en parlera après si vous voulez avec les questions. 5 livres liturgiques, il y a 3 livres de sagesse, Psaume, Job, Proverbe, non pas dans notre ordre, qui est un ordre différent en fait, qui est l'ordre grec, hein, de Ptolémée Philadelphe au 3e siècle avant Jésus-Christ, dans la Bible d'Alexandrie, la Bible des Septante. Mais Psaume, Job, Proverbe, et ensuite, 5 livres historiques, qui sont Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques et Daniel. Et donc, dans ces Ketuvim, les écrits, katav, ça veut dire écrire en hébreu, il y a Psaume, Job, Proverbe, c'est-à-dire, en fait, 3 livres qui sont là pour un peu réveiller, en fait, les consciences. Psaume du peuple, Job de l'individu et Proverbe peut-être des enseignants. Hein? Psaume, c'est les souffrances du peuple et ce sont des chants collectifs. Proverbe, c'est l'enseignement qui devrait être donné, en fait. Et Job, c'est l'histoire d'un homme. Et donc l'histoire d'un homme pour montrer finalement, de point de vue individuel, quelle souffrance quelqu'un peut avoir et pourquoi, en fait, il a, quel est vraiment son sens. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé Job et le monde invisible? C'est parce que il me semble que le monde invisible, adverse, les puissances spirituelles de méchanceté, sont là pour rendre visible ce qui est invisible chez l'humain. Ça va? Le monde invisible, les puissances spirituelles de méchanceté, sont là, dans la main de Dieu, pour rendre visible ce qui est invisible chez l'humain. Autrement dit, les motivations. Et on va voir avec le plan comment, finalement, comment dire, ce livre de Job montre un homme parfait, montre quelqu'un qui est en quelque sorte bien, sous tout rapport avec Dieu, qui fait ce qu'il faut. Comment, en fait, au chapitre 1 et 2, le ciel est ouvert? Hein, on a une scène qui est très, très curieuse, hein, où on voit Satan qui vient se promener devant l'Éternel, on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin ?» en fait, hein. Et on voit, en fait, au chapitre 3, Job qui se raconte. Et on va écouter ce qu'il raconte. Et Job qui devient, en fait, visible. Job qui commence, jusqu'au chapitre 26, à réagir au discours de ses trois accompagnateurs, qui sont Eliphaz, Bildad et Tsophar, et qui chacun, on en parlera aussi, donne, comment dire, ce qu'ils ont compris. Hein, ce qu'ils, mais on va voir comment Job, au chapitre 27 à 32, est quelqu'un qui se dévoile complètement, hein, devient vraiment visible, et comment, finalement, on verra cet après-midi, comment, avec Élihu, Job peut être vraiment réorienté vers Dieu, et puis restauré, donc, au chapitre 42. Voilà un peu le regard que je vous propose sur le livre de Job. Alors, dans l'introduction, on va montrer de manière générale certaines réalités. Voilà, la vie est un combat. Autrement dit, il y a des puissances adverses, mais je crois que chez les souffrants comme chez les chrétiens, il faut être certain que ce combat est mal perçu. La vie n'est pas un combat contre Satan. La vie, c'est que Satan combat contre nous. Je vais le redire. La vie n'est pas un combat contre Satan. Nous, nous avons à marcher, en fait. Mais nous avons des adversaires, mais nous n'avons pas, nous, à nous battre contre Satan. Mais nous avons, nous, à comprendre que ces adversaires sont dans la main de Dieu et que quand nous en avons besoin, alors l'adversaire vient nous titiller. Mais nous, nous avons à travailler, nous n'avons pas à combattre. Mais pour travailler, il faut l'armure. Les questions, on réagira tout à l'heure. Hein. Nous avons l'armure du chrétien. Et voilà, la vie est un combat, mais finalement, quel est le sens que nous donnons au combat? Et souvent, des gens souffrent parce qu'ils voient Satan de partout, ils se sentent harcelés de partout. Et là, il y a des choses qui sont à préciser. Ensuite, deuxième chose, la souffrance fait partie de la vie. Et j'aime bien, vous savez que la mise en chapitre et la mise en verset est quelque chose d'artificiel. Dans les Bibles hébraïques, dans le texte, il n'y a pas de chapitre et de verset. Hein? Mais que la mise en chapitre a été faite, on pense, par un moine irlandais au XIIIe siècle, et la mise en verset a été fait par Robert Estienne, qui était imprimeur à Paris. Hein, il a eu cette idée quand il était sur son cheval, vers 1556. Hein, donc, et on peut le remercier, mais donc Job 36-15, hein, si on était il y a 20 ou 25 ans, le 36-15, c'était le Minitel, c'était le lieu de la recherche, en fait. Hein. Et c'est quoi 36-15? Eh bien, dans l'oppression, au malheureux, Dieu ouvre l'oreille. 36-15. Voilà. Et donc, je trouve ça très intéressant. La souffrance, on l'a vu dans nos trois clés, est un indicateur. Hein, voilà, quelque chose dans lequel on a justement à ouvrir l'oreille. Troisième chose, dans l'introduction, c'est que la vie est une construction. Alors, on va nous dire, oui, mais bien sûr, il est dit dans Job 42:10 que l'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait eu. Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, il a quand même perdu tous ses enfants. Hein, alors d'accord, il a eu le même nombre d'enfants après, mais les premiers sont morts. Alors, on ne va pas entrer dans ces considérations, on va simplement dire que Job a construit quelque chose. et qu'au chapitre 42, on ne le voit pas avoir des regrets. Hein? Il est dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Et maintenant, j'y suis, je comprends que j'ai une plus-value, que j'ai quelque chose qui est bien. » Donc, un combat, de la souffrance, une construction, et puis une expérience. Hein, autrement dit, dans ma construction, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de faire une expérience personnelle. Et vous, vous avez besoin de faire une expérience personnelle, comment dire, du livre de Job. Moi, j'ai lu le livre de Job un bon nombre de fois, peut-être 20, 25 fois entièrement, sans comprendre. Et un jour, j'ai compris, grâce au Père Dumoulin, catholique, qui a écrit un livre qui s'appelle « Job, une souffrance féconde ». Voilà, je le remercie, si on, un jour il m'entend, ça peut, hein. Donc, et voilà, et donc, la vie est une expérience, en fait. Et nous parlons des choses que nous expérimentons, des choses que nous comprenons. Et voilà un peu le thème de ce livre de Job. À la fois le combat, la souffrance, la construction, l'expérience. Alors, on va un peu poser des choses concernant Job. Alors, il est dit, hein, Job, il est dit de Job que cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Alors là, si on entend ça, d'abord, on va ne pas être d'accord avec le proverbe populaire qui dit que personne n'est parfait, puisque Job était parfait. Hein? Mais en attendant, ce proverbe populaire court parmi les chrétiens. C'est incroyable! Hein, comme on est capable de dire « personne n'est parfait hein ». Mais Colossiens 4,12 nous dit que Épaphras combat pour nous par des prières afin que nous demeurions parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Alors il y a des gens bien intentionnés qui vont dire « oui, mais on est parfait en position, mais pas en action ». Ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire être parfait. Parfait, de l'hébreu « tam », du grec « telos », qui veut dire finalement quelqu'un qui fait ce que Dieu lui demande. Tiens, tiens, on en a déjà parlé. Hein? Autrement dit, ma perfection, c'est d'avancer. Hein? C'est de simplement de faire ce que Dieu me demande. Tu es tombé, relève-toi. C'est ça la perfection. Faire ce que Dieu me demande. Autrement dit, Job faisait ce que Dieu lui demandait. Il en faisait même plus. Puisque on sait que Job, en fait, voilà, on va lire, hein, il se levait de bonne heure, il offrait des holocaustes, hein, voilà, il était parfait dans tout ce qu'il a fait, hein, on lit ici que même quand il a perdu ses biens, ses enfants, Job ne pécha pas, mais qu'est-ce qu'on lit dans le chapitre 1er ou dans les premiers versets? On lit que Job offrait des sacrifices pour ses enfants en disant peut-être ils ont péché. Autrement dit, il était tellement parfait qu'il faisait même ce qu'il ne devait pas faire, puisqu'on n'avait pas à offrir des sacrifices pour si acaso, comme on dit en espagnol, hein, pour si jamais hein, mes enfants ont péché. Donc, j'ai envie de dire que Job était plutôt celui qui met en œuvre ce que Dieu lui demande en prenant une bonne assurance vie. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt qu'en étant en relation avec Dieu. Parce que l'important, ce n'est pas que je ne sois pas malade. L'important, c'est que je sois en relation avec Dieu. Hein? Et je pense que Job en faisait même un peu trop et qu'il était complètement dans ce qu'il faisait. Normal, les hommes sont des êtres en action, on l'a vu. Hein? Complètement dans leur truc, le nez dans le guidon. Et oubliant la relation qui est la personne de Dieu. Et alors, on voit dans les réactions de Job que, ben oui, il a des réactions honorables. Il est vraiment dans l'acceptation. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand il est malade, il dit à sa femme, ne recevrions-nous pas le mal? Et quand sa femme lui dit, restes-tu encore ferme dans sa perfection? Alors il reste parfait, malgré cette relation aux autres difficile. On peut noter que ses trois amis qui viennent et qui s'assoit devant lui 7 jours et 7 nuits, nul ne lui dit une parole. On peut noter que devant cette douleur de Job, ben, il n'y a pas de commentaire tellement qu'il soit utile. Et on voit cet homme finalement qui est très seul dans l'impasse d'un projet de vie qui est de se garantir que tout aille bien, et tout à coup, j'ai tout bien fait, mais ça ne va pas. Alors on a vu l'introduction, je rappelle le plan en haut à gauche. On essaye de comprendre en quoi Job est parfait. On va tout à coup voir le ciel ouvert qui nous fait rentrer dans ce qui est invisible chez Job. On va voir comment l'invisible se dévoile et comment le vrai caractère de Job va se dévoiler. Et on va voir comment est-ce qu'il est restauré. Et on va pouvoir conclure avec ça. Alors, on a vu donc Job parfait. On comprend en fait qu'il est parfait parce qu'il fait ce que Dieu lui demande. Le ciel ouvert, c'est quoi? C'est les fils de Dieu, les anges, qui sont devant l'Éternel. On trouve cette réalité, les fils de Dieu, par exemple en Genèse 6, hein, les fils de Dieu qui vinrent vers les filles des hommes. Ces anges qui sont capables de prendre un corps, de s'incarner. On se souvient que Abraham a eu trois visiteurs. Il y avait l'Éternel et il y avait deux anges, en fait, qui avaient un corps, hein, qui sont allés exercer le jugement à Sodome. On se souvient que Manoah, avec sa femme, ont vu aussi un visiteur qui était un ange. Certains, à leur insu, ont logé des anges, nous dit Hébreux 13. Voilà. Et ces fils de Dieu, ce sont des esprits. Hébreux 14 nous dit que les anges sont des esprits administrateurs qui servent en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Les anges sont des esprits et ils sont puissants, ils ont cette capacité de s'incarner. Je fais juste une petite parenthèse en disant qu'il me semble que le ministère angélique est le ministère qui se fait dans le temps de l'existence collective d'Israël. Autrement dit, il y a un ministère angélique qui commence en fait avec Abraham, avec l'appel d'Abraham, avec les théophanies, les apparitions de Dieu, qui a peut-être commencé déjà en Éden, quand Dieu se promène dans le jardin. Autrement dit, Dieu se promène dans le jardin, il dit à Adam, où es-tu? Il se promène. Mais quand l'homme est chassé d'Éden, alors il n'est plus dans la présence directe de Dieu, visible. Hein? Et donc, avec Abraham, il y a l'apparition, en fait, il y a les théophanies, des manifestations, et il y a le ministère angélique qui est dans ce cadre collectif de la bénédiction de Dieu pour les nations par Israël. Il y a un cadre collectif du peuple, et donc il y a un ministère angélique dont nous parle abondamment l'Épître aux Hébreux, mais qui nous dit qu'il a abouti en Jésus. Jésus est meilleur messager que les anges. Je ferme ma parenthèse. Le ciel est ouvert, les fils de Dieu, les esprits sont là. On trouve cette description, par exemple, dans le livre des Chroniques, j'ai oublié le chapitre, hein, du temps du roi Josaphat et Akab, où tout à coup on voit cette scène où il y a des esprits qui sont là, et l'un dit, je serai une parole de mensonge dans la bouche des prophètes, parce que l'Éternel a dit, qui ira, qui sortira? Donc on voit le monde angélique, le monde des esprits, avec les esprits qui sont à la fois soumis, les anges, et les esprits qui sont déchus, comme dit Jude, les démons, en fait. Et on voit ce monde qui est ouvert, les fils de Dieu, les anges donc devant l'Éternel, et on voit Satan, on est un peu étonné, hein, qui est, Satan veut dire adversaire. Satan en hébreu veut dire adversaire. On est un peu étonné de voir Satan qui se tient devant l'Éternel, et que finalement l'Éternel a des paroles tout à fait cordiales, hein, envers Satan. Hein, voilà, d'où viens-tu? Tiens, bonjour Satan, pratiquement. On a l'impression qu'il y a une relation très, comment dire, sans colère, etc. Hein? Et donc Satan lui répond, ben voilà, je viens de me promener sur la terre, par-ci, par-là, comme si de rien n'était, alors que Satan est l'adversaire. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Autrement dit, pourquoi Dieu porte-t-il l'attention de Satan sur Job? Hein? Eh bien, je vais tout de suite répondre à ça parce que Job a besoin de Satan. Non, c'est pas exactement ça. C'est parce que Job Excusez-moi d'aller loin dans ma réflexion, il sert Satan. Parce que Job, avec la recherche, en fait, de ce qu'il recherche, il ne recherche pas Dieu. Il sert le Dieu de ce monde. Il est dans ses, et on le verra bien, il est dans sa démarche intérieure, dans une démarche charnelle, où il recherche le Dieu de ce monde avec les principes de ce monde, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Il est dans cette démarche-là, et on va voir, donc, Dieu pose des questions à Satan sur Job, Satan accuse Dieu, il lui dit, mais écoute, tu réponds, toi, à ses sollicitations, il fait des sacrifices, tu l'entoures, tu le protèges, etc. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il contrôle Satan. Hein? Au chapitre 1, on l'entend dire, eh bien voilà, tu peux toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa personne. Au chapitre 2, tu peux toucher à sa personne, mais ne touche pas à sa vie. C'est ce que nous voyons de manière absolument carrée dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 21, où on voit que Jésus-Christ est au-dessus des principautés, des autorités, des dominations, des puissances et de tout nom qui se nomme. Autrement dit, Jésus est au-dessus de toute puissance spirituelle et aucune puissance spirituelle, Éphésiens 1:21, ne peut faire quelque chose sans que Dieu ou Jésus ne les autorise. C'est exactement ce qui se passe dans le livre de Job. Autrement dit, nous n'avons aucune raison de craindre le monde invisible. Mais ce que nous avons comme crainte, c'est de ne pas le servir, en fait. Hein? Et Éphésiens 4, verset 27, nous dit « Ne donnez pas occasion au diable. Hein? » 1 Timothée 5, 17, nous dit que les jeunes veuves, par leurs propos, se sont détournées après l'adversaire. Donnez occasion au diable. Job, par son projet de vie, en fait, il donne occasion au diable. Et du coup, comme Job donne occasion au diable, alors l'Éternel dit au diable, eh bien voilà, Job, en quelque sorte, de manière indirecte, demande, alors vas-y. Donc, je ne sais pas si, comment ça réagit chez vous, on en parlera après, mais si vous voulez, voilà quelque chose qui est très très clair dans le livre de Job, où on voit que Job est parfait, mais ce qui est décrit de Job, c'est quand même bancal. Hein? Il est parfait, mais il offre tellement de sacrifices, il offre des sacrifices même pour les péchés qui ne sont pas commis. Là, il y a quelque chose qui dépasse la mesure. Et donc, qu'est-ce que fait Satan? Satan, c'est le diviseur. Hein? Il incite les Sabéens, puis les Chaldéens. Il incite les hommes contre les hommes. Hein? Dieu livre Job dans les mains de Satan, comme Paul livre l'adultère du chapitre 5 de 1 Corinthiens dans les mains de Satan. Pourquoi? Parce que en couchant avec la femme de son père, eh bien, il sert le Dieu de ce monde. Alors Paul livre cet homme au Dieu de ce monde. J'ai jugé de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair. Tiens, tiens, comme Job. Voilà ce que fait Dieu en autorisant Satan et ce que fait Paul dans un sens avec l'autorité apostolique et ce que pourraient faire les chrétiens. Quand quelqu'un va jusqu'au fond dans une démarche avec un comportement où on sert Satan, alors on peut dire à un tel homme, eh bien, voilà, nous prions Satan de s'occuper de toi. Ça fait très peur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Satan, c'est le prince de l'autorité de l'air. Éphésiens 2, verset 3. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Eh bien, la foudre tombe. Qu'est-ce que fait Satan? Le vent fait tomber la maison, dans Job chapitre 1. Et c'est très intéressant, on vient de parler d'Élie tout à l'heure. Satan est capable, a la capacité de faire les mêmes choses, dans un sens que Dieu, Dieu lui permet. Mais les gens sont puissants. Et donc, Satan a autorité sur l'air, sur la foudre, sur le vent. Autrement dit, quand quelque chose se passe aujourd'hui, avec la foudre, avec le tremblement de terre. Qui est-ce qu'on accuse? Qu'est-ce qu'on entend? Hein, je crois qu'on en avait un petit peu parlé dans la semaine précédente. Et ici, on voit donc que finalement, Dieu sollicite Satan. Il y a des questions répétées de Dieu à l'égard de Job. Hein, Satan revient. L'Éternel, finalement, redemande à Satan ce qu'il en pense. Tout à fait étonnant. Satan au service de Dieu. Hein, Satan, l'adversaire au service de Dieu. Et on voit finalement que Satan a un pouvoir sur la santé. Hein, j'y livrerai un tel homme à Satan pour la destruction de la chair. Autrement dit, quand on est malade, posons-nous des questions. Attention, je n'ai pas dit que toute maladie vient du péché. Mais j'ai dit que quand nous sommes malades, posons-nous des questions. Regardons quel est notre rapport à Dieu. Regardons quel est notre rapport au prince du monde. Quelle est la place que nous laissons à l'esprit du monde dans nos projets? Si nous laissons de la place à l'esprit du monde, il n'est pas étonnant que Satan ait une ouverture sur nous. Satan est destructeur, nous dit Jean 8, 44. Satan a un pouvoir sur les éléments, le feu du ciel, le vent, mais aussi sur notre santé. Alors, ces choses étant dites sur le ciel ouvert, on peut maintenant écouter au chapitre 3 le Job invisible et entendre que bien que les consolateurs fâcheux ne demandent pas à Job de parler, Job parle. De la même manière, quand quelqu'un vient me voir en accompagnement pastoral, j'ai pas besoin de lui dire de parler. Et donc, on va l'écouter. Et Job commence par maudire son jour. Job recherche l'anéantissement, autrement dit, préfère cesser de vivre que de continuer à vivre comme ça. Le problème, c'est qu'il vit comme ça parce qu'il est dans son projet personnel. Et on va voir quel est son projet personnel. Job exprime sa colère. Et il montre en fait que le but qu'il s'était fixé est inaccessible. En fait, il s'était fixé de ne pas avoir de misère. Il maudit son jour parce que, chapitre 3, verset 10, le jour, hein, elle, n'a pas caché la misère de devant mes yeux. Job ne voulait pas de misère. Ah, ça me fait penser à la convoitise de la chair. Pas de maladie, pas de manque, pas de disette, hein, pas de tout ce qu'il faut dans ma chair. Job ne voulait pas de misère. Il dit au chapitre 3 et au verset 13, j'aurai du repos, alors il ne dit pas que ça, hein, je serai avec les princes de ce monde, ceux qui ont de l'or, etc. Il se croit au club méditerranéen, ma parole. Hein, il est vraiment dans une vision irréaliste de la vie, en fait. Peut-être la convoitise des yeux, une vision irréaliste. Et je voudrais bien insister sur le fait que il ne répond pas à ses amis. Il parle. Job parle de lui. Job, finalement, devant la pression du monde invisible. Alors, le Job invisible se découvre. Et il dit donc, première chose, je ne veux pas voir la misère, verset 10. Deuxième chose, je veux être peinard, verset 13. Troisième chose, je veux contrôler ma vie, verset 23 à 26. Il dit même au verset 26, je crois, au 25, j'ai eu une crainte et elle m'est survenue. Ce que j'appréhendais m'est arrivé. Job veut contrôler sa vie. Le contrôle de sa vie, ce n'est pas l'orgueil de sa vie, l'orgueil de la vie. Hein, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Autrement dit, Job va vraiment rentrer dans sa perfection, dans ses principes du monde, hein, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est, me semble-t-il, ce qui ressort du chapitre 3. Quand on écoute quelqu'un en souffrance, à nous de discerner tout ça. À nous de donner les moyens à une personne d'exprimer ses souffrances et de prendre conscience, en fait, du rapport, en fait, à ces principes du monde. Qui dit principe du monde dit service du prince du monde. Hein, je sers le prince du monde avec les principes du monde. Alors, on va voir assez rapidement avec Job que dans son comportement, le Job visible, le Job qui manifeste quelque chose, eh bien Job sait, il sait tout. Hein? Et il va dire, la terre est livrée en la main du méchant, il couvre la face de ses juges. S'il n'en est pas ainsi, qu'est-ce donc? Job 9, verset 24. Il accuse les autres. Voici, je connais vos pensées, vos plans contre moi pour me faire violence. Job 21, 27. J'ai pris ce verset, mais il y en a beaucoup. Il rejette, hein, Job 13, versets 4 et 5. Il réfute Job 21. Il va leur dire, avec vous, mourra la sagesse. Hein, vous pensez vraiment être les seuls hommes sages? Mais il accuse Dieu. Hein, il se croit poursuivi par Dieu. Hein? Job 19, verset 21, « Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a atteint. » Et on pourrait, dans le livre de Job, mais je n'ai pas voulu prendre le temps de le faire, voir les choses énormes au chapitre 6, au chapitre 9, que Job profère contre Dieu. Les choses énormes. Hein, s'il plaisait à Dieu de me fracasser la tête sur le rocher, il va dire. Hein, les troupes de Dieu se sont rangées contre moi, le venin de leurs flèches m'a atteint. Et il dit, Dieu n'est pas juste. Hein, il dit, voici, Dieu me montrerait pervers. Alors, voilà, dans un sens, le comportement de Job qui montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non pas tout ce qui lui arrive suite à son problème, mais tout ce qu'il y avait en lui à l'égard de Dieu. Voilà le mérite, voilà la vertu de la souffrance, de faire ressortir ce que nous croyons ou ce que nous pensons de Dieu. C'est ça que j'appelle le Job visible. Le Job visible, alors on va rentrer un peu dans le détail, il dit de Dieu, « Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. » Il passe à côté de moi, je ne l'aperçois pas. Dieu est abstrait. Job ne sert pas Dieu, Job se sert de Dieu. Parce que quelque chose lui échappe, en fait. Et du coup, puisque Dieu lui échappe, alors il fait ce qu'il faut pour être bien. Job 9, versets 4 à 10. Un Dieu qui est contesté par l'expérience de Job, je vais lire ce verset, Job 9, verset 11. Job 9, 11, voilà, où il dit, c'est ce que j'ai écrit, Job 9, verset 4 à 10, je me suis trompé dans les références là, par exemple, Job va dire au verset 3, si l'homme se plaît à contester avec Dieu, il ne lui répondra pas sur un point entre mille. Donc voilà déjà une critique faite à Dieu. Et au verset 4 à 10, il y a des choses qui sont bonnes de Dieu. Hein. Il sait des choses sur Dieu, il va les dire. Mais par contre, au verset 11, son expérience lui fait contester que Dieu soit si bien que ça. Et au verset 11, il va dire, « Il passe près de moi, je ne le vois pas. Il passe à côté de moi, je ne l'aperçois pas. » Alors Dieu est néanmoins l'ancrage de Job. Hein, chapitre 16, verset 19. « Maintenant aussi, voici, mon témoin est dans les cieux, celui qui témoigne pour moi est dans les lieux élevés. » Job dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Chapitre 19, verset 25. Mais ce Dieu est le Dieu qui ne répond pas. Chapitre 30, versets 20 à 23. Je crie à toi, tu ne me réponds pas. Je me tiens là et tu regardes. Autrement dit, si on prend la peine de chercher dans ce livre de Job ce que Job pense de Dieu, là on voit qu'il y a quand même beaucoup à redire. Après, on va voir ce que Job pense de lui. Et on entend Job dire « Je tiendrai ferme ma justice », autrement dit, il fait des choses qu'il estime être bonnes. On entend Job au chapitre 28 dire finalement qu'il est le seul sage, et il va démontrer par une démonstration tout à fait terrible au chapitre 28 qu'il est sage et qu'il a compris ce que c'est que la sagesse, qu'elle est à rechercher plus que l'or toutes les richesses de la terre. Et on l'entend dire vraiment qu'il est le seul sage. Au chapitre 29, on entend Job parler du bonheur passé, mais dans des termes tout à fait presque inconvenants. Au chapitre 29, il est dit au verset 2, « Que ne suis-je comme au mois d'autrefois, comme au jour où Dieu me gardait ?» Verset 4, « Quand le conseil de Dieu présidait sur ma tente ?» Verset 5, « Quand le Tout-Puissant était encore avec moi ?» Verset 23, « On m'attendait comme la pluie et on ouvrait la bouche comme pour la pluie de la dernière saison. » Autrement dit, j'étais le sauveur de tout le monde. J'étais vraiment, moi, l'homme indispensable au milieu d'une société qui avait besoin de moi. C'est pour ça que je parle de son prestige, de ses vertus, de sa position. Mais au chapitre 30, il dit « Et maintenant, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de jeunes. » Hein, c'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, hein, malheureusement, hein, avec ce manque de respect des autres. Hein, dans la bouche de Job, on entend « l'avenir est sombre hein, ». Bien sûr, il est avec Dieu, mais Dieu ne répond pas. Chapitre 30, verset 20. À partir cet état de fait, donc chapitre 27, 28, « Je suis le seul sage hein, », chapitre 29 et 30, « J'ai été tout à fait béni et maintenant plus rien ne va ». Alors, Job fait finalement un peu le compte-rendu de sa vie. Hein, voilà. Il se justifie, si j'ai mal agi. Et non, il n'a pas mal agi. Hein, et il va dire, j'ai pas fait, verset chapitre 30, chapitre 31, verset 1 à 5, je n'ai pas eu d'impureté en pensée, ou si j'en ai eu, je les ai jugés. Je n'ai pas fauté contre autrui par envie, versets 7 à 12, « Je n'ai pas fauté contre autrui par mépris », versets 13 à 15, « Je n'ai pas fauté contre Dieu par égoïsme », versets 16 à 23, « Je n'ai pas été idolâtre », »,« Je n'ai pas fauté contre l'étranger », »,« Je n'ai pas caché d'erreur », versets 33 à 34. Autrement dit, Job se fait une auto-justification complète, et il a dû passer beaucoup de temps pour faire ça. Impressionnant, je ne me moque pas de lui. Hein. J'écoute simplement ce qui nous est dit de Job, et je cherche à simplement à bien comprendre à quel point on peut se justifier alors qu'au contraire, Dieu nous appelle à être des enfants et à marcher finalement avec la justice que Dieu nous donne et avec la vertu et la capacité qu'il nous donne. Alors, Job, au contraire, à un moment donné, après le discours de ses accompagnateurs fâcheux, qu'on verra cet après-midi, le discours d'Élihu, qu'on verra cet après-midi, mais j'ai voulu centrer notre réflexion de ce matin sur Job, alors Job est restauré. Parce que finalement, Job, s'il avait dit, selon le principe du monde, je ne veux pas voir la misère, alors grâce à tout ce qu'il a vécu, effectivement, il peut voir la misère. Et j'ai noté, par exemple, chapitre 42, verset 7, il peut pardonner aux amis qui ont mal parlé. Il peut accepter de voir la misère, mais dans un sens, d'en comprendre l'utilité, pardonner. Il peut comprendre que la souffrance, eh bien, elle est liée au temps, il a besoin, avec le temps, d'apprendre. Hein, voici, j'ai mal parlé de toi. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Hein, je me repent dans la poussière, dans la cendre, etc. Autrement dit, il comprend qu'il a besoin de ce temps d'apprentissage. On ne le voit pas en train de regretter d'avoir appris quelque chose. Et on voit que Finalement, la misère, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et ça, c'est important. Hein, ça, c'est quelque chose que Job accepte. Première chose, voir la misère. Deuxième chose, être dans le combat. Dans le combat, il comprend que, ben, oui, cette souffrance, elle est réelle, mais finalement, elle est un lieu de rencontre avec ses amis qui l'ont mal servi, de rencontre avec Élihu qui l'ont bien servi, et le lieu de la rencontre, le lieu d'une rencontre difficile, le lieu d'un combat, le lieu d'un combat. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que Job est conscient du monde invisible. Nous en avons le récit. Mais lui, il n'est pas dit qu'il soit forcément conscient. Hein. Mais en tout cas, il y a une confrontation entre Job et ses amis qui est un combat. Et là, je pense qu'à la fin, Job est conscient de la nécessité de l'adversité. Et il ne dit plus « je veux être peinard ». Et Job non seulement est conscient de la nécessité de la rencontre et de l'opposition, mais Job est conscient de la nécessité de son intervention et de son intercession. Et c'est lui qui vient intercéder auprès de l'Éternel à l'égard des accompagnateurs fâcheux. Donc, voilà un Job qui finalement change de veste et qui ne dit plus « je serai tranquille », mais qui rentre dans une dynamique spirituellement valable, une dynamique utile, qui est le lieu de l'intercession. Et puis alors, dans son expérience, troisième point, il a vraiment l'expérience de ne pas avoir à contrôler sa vie, puisque, au bout du compte, il a le double des richesses. Donc il expérimente que, dans la mesure où il s'abandonne à Dieu, alors vraiment, Dieu lui donne ce dont il a besoin, lieu de l'expérience, et puis le lieu de la guérison. L'expérience, finalement, d'un profit avec Dieu, mais l'expérience d'une guérison, d'un retour à Dieu, d'une guérison personnelle qui est importante, qui est essentielle. On va dire, en conclusion, que la perfection, ce n'est pas tout. Hein? En conclusion, que si je fais ce que Dieu me demande, l'important, c'est, en fait, est-ce que j'ai bien conscience de mes motivations? Pourquoi est-ce que je fais quelque chose? Pourquoi est-ce que je fais un stage de formation pastorale? Qu'est-ce que je cherche, en fait? Est-ce que je cherche à briller? Est-ce que l'utilité ne serait pas mon Dieu? Ou est-ce que je cherche vraiment à être avec Dieu? Hein? Être parfait, ce n'est pas tout. Ce qui est tout, c'est être avec Dieu. Hein, j'ai été très touché dans mes lectures quotidiennes. Je vais vous donner les deux versets parce que ça m'a beaucoup touché. Marc, chapitre 3, verset 14. Jésus établit 12 apôtres. Pourquoi ? Pour être avec lui. 1. Et 2. Pour les envoyer, prêcher, et etc. Ça, c'est le début du ministère de Jésus avec les siens. Pour être avec lui. Voilà. Et on pourrait parler longuement de tout ça. Je voudrais être très court. Mais au début du ministère des apôtres, c'est pour être avec lui et la relation et l'action. Être avec lui et prêcher. Est-ce qu'on est en relation, nous les hommes? Est-ce qu'on est en action, nous les femmes? Hein? Et après, ça dépend des comportements, ça dépend de l'éducation. Hein? Et je pense que les femmes qui sont ici sont plutôt des femmes en action. Hein, parce que vous avez envie justement d'agir. Mais attention à être dans les deux domaines. On est avec Dieu et on fait avec Dieu. Mais si vous tournez une page avant dans la Bible, en Matthieu 28, verset 19, Jésus les envoie à la fin de son ministère. « Allez, faites disciples, etc. » Et il lui dit « Et je suis avec vous. Hein? » Hein, voilà. « Faites pas les choses sans moi, en fait. » Hein, mais au début du ministère, il leur dit, il les établit pour être avec lui, autrement dit la relation, et puis pour prêcher. Mais à la fin, il les envoie prêcher, mais n'oubliez pas d'être avec moi. Hein? Eh bien Job, voilà, il est parfait, mais je crois qu'il a oublié quelqu'un. Quoi. Je voudrais pas piétiner Job. Hein? Voilà, quand on le rencontrera, je lui demanderai pardon si je suis allé trop loin. Mais je veux dire qu'on a le livre de quelqu'un qui nous est montré dans les détails. Et il faut qu'on profite en fait de ces chutes et qu'on comprenne à quel point Job peut-être a été parfait, mais il lui a manqué quelque chose. Deuxième chose importante, c'est que le monde invisible adverse, il est utile dans la main de Dieu. Je ne crains pas le monde invisible. Oui, mais adverse. Hein? Mais voilà. Et là, je crois que le monde chrétien a besoin d'être enseigné avec ça. Hein? Je ne crois pas qu'on nous enseigne de bonnes choses à l'égard du monde adverse. Il faut comprendre que comment est-ce que ce monde est dans la main de Dieu, et dans la mesure où nous, par l'esprit du monde, en mettant en avant, en attristant cet esprit, on l'a vu ce matin, et en mettant en avant l'esprit du monde, dans un sens, on ouvre cette possibilité au monde adverse. Il ne faut pas s'étonner après si quelque chose ne va pas bien. Et puis, dernier point, c'est que le livre de Job nous appelle à nous connaître nous-mêmes, pas d'une introspection maladive, bien sûr, mais nous connaître nous-mêmes en sachant nous écouter, en prenant du temps à nous écouter, en prenant du temps à écouter ce que l'autre dit de ce que j'ai dit, en fait, dans le dialogue. Hein, Proverbe 12:18, la langue des sages est santé. Autrement dit, merci Cham de me répondre. Hein, merci d'être un vis-à-vis. Merci à vous d'être un vis-à-vis pour moi. Moi, je peux m'écouter en vous, en fait, dans la manière dont vous réagissez. Donc, je crois que on verra cet après-midi que si les trois consolateurs ont été fâcheux, ils ne sont pas si fâcheux que ça. Ils sont fâcheux parce qu'ils ont mal parlé. Mais ils ont permis à Job d'exprimer ce qu'il est. Et Job aurait pu s'entendre, en fait, dans ce qu'il a exprimé. Alors voilà, j'arrête ici mettons la première partie de l'enregistrement. Et maintenant, je vais tourner l'ordinateur pour qu'on puisse poser des questions, réagir, donner des points de vue. Hein, il n'y a pas de problème, ça capte, hein, c'est bien. Donc voilà, allez-y, réagissez, réagissons. Parlez plutôt un peu fort parce que c'est utile. Qui est-ce qui veut commencer?
Je trouve intéressant de voir Job sous un autre angle. Parce que moi, quand j'entends des prédications sur Job, j'ai l'impression souvent qu'on nous parle d'un saint. Et de voir sous cet angle, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de voir quelque part combien il a progressé dans sa relation. Et cette image de perdre tout ce qu'il avait me fait penser à l'ancienne vie et la nouvelle vie. Un peu. Mort, ressuscité, mort, résurrection. Et dernier point que tu as dit par rapport au Seigneur, que je vous envoie, mais je suis avec vous. Je suis avec vous. Et c'est là, c'est intéressant parce que même à un moment donné, dans la Bible, il dit, il y a des gens qui sont venus voir Christ, il dit, mais j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Et il dit, mais je ne vous connais pas. Et un jour, je restais sur ces versets, je dis, mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait quand même quelque chose. Ils n'ont pas dit, j'ai fait ça avec toi. Ils ont dit, j'ai fait ça pour toi. Et cette conclusion vers la fin, enfin, que tu as dit, mais par rapport à je suis avec vous, je pense que le Seigneur veut opérer, utiliser notre corps, quelque part pour exercer, à accompagner avec lui hein, dans ce ministère. Ça veut dire, il est avec nous, il nous donne des directions, on y va, on découvre. Dans ce sens-là, au lieu de vouloir tout le monde, toujours faire pour Dieu. On a un gros problème avec ça, hein, faire pour, et que des fois il faut faire avec, et on oublie que l'Esprit Saint est là, et il veut nous accompagner dans tout ce qu'il fait. Tout ce que nous faisons, on est là avec lui. Et c'est lui qui est l'initiateur, on l'a en français, de tous ces projets, parce que c'est un projet qui découle des dieux. Mais je suis très content de voir Job sous cet aspect, parce que j'arrivais à trouver pas mal de détails qui ne sont pas... J'aurais pas pu l'expliquer, voilà. Et tu as su m'expliquer des choses qui est très intéressant. Voilà, j'arrête là.
reviens un petit peu à ce que tu as dit au début, notre combat n'est pas contre Satan. Bon, c'est vrai que lorsqu'on lit Éphésiens 6, quand même, on focalise sur Satan, sur les puissances des méchancetés, etc. C'est vrai qu'après ce que tu as montré, là, que Satan peut être utilisé par Dieu, peut être création, donc, une créature dont il se sert, qui peut nous être utile, même donc, je le conçois aussi, je l'admets. Mais voilà, alors comment concilier les deux, moi, il y a encore des choses qui ne sont pas très très claires, comment ça s'articule. Là,
avec deux expressions du chapitre 6, hein, je crois que c'est 12 et 14, versets 12 et 14, tenir ferme. Notre combat, dans Éphésiens 6, il n'est pas, verset 11, hein, afin que vous puissiez tenir ferme, et puis, verset 13, après avoir tout surmonté, tenir ferme, verset 14, tenez donc ferme. C'est ça la manière de lutter. Nous n'allons pas chercher Satan, oubliez. Et quand il vient, nous tenons ferme. Et quelle est justement la manière, Éphésiens 4, 27, de donner occasion au diable? C'est en servant les principes du monde. Le combat spirituel se fait dans nos pensées par l'attachement à la vérité et la dénonciation du mensonge. Et toute l'armure, on le verra quand on fera l'épître aux Éphésiens, toute l'armure du chrétien est constituée et en rapport avec la vérité. Tenir ferme. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a des gens qui vont se battre.
Donc c'est plutôt voilà, dans la défensive plutôt et voilà, résister. Voilà.
Jésus n'est pas allé combattre Satan. Il détruit les œuvres du diable parce qu'en fait c'est Satan qui vient vers lui. Satan, au début de son ministère, Satan le tente et à chaque fois Jésus lui dit, il est écrit. Voilà. Et même quand Satan lui dit il est écrit, Jésus lui dit il est écrit aussi.
Il lui place à son endroit.
Hein, voilà. Tiens ferme. Il tient ferme. Et dans le sens, il le respecte. Hein? Il lui dit va-t'en, Satan. Mais il le respecte.
On va insister pourtant qu'il y avait des armes offensives. Alors, dans ce combat qui est présenté à Éphésiens 6, toujours.
Alors, l'arme offensive, il y a six pièces. Hein, la ceinture, la cuirasse et les pieds chaussés, qui sont des pièces personnelles. Et ensuite, il y a le bouclier, le casque et l'épée, et qui sont des pièces en relation avec les démons. Bouclier pour dire non, non au mensonge. Le casque pour décider, pour se prévenir du non de l'action. Et l'épée pour dénoncer le mensonge. Hein, et la parole de Dieu, en grec, c'est rhémata et non pas logos. C'est-à-dire que c'est la diction, en fait. Je dis non à ce qui n'est pas vrai. Et dans un sens, je pense que quand on est obsédé par quelque chose, je ne sais pas, ça peut être la médisance, ça peut être la richesse, le sexe, différentes choses, c'est important à un moment donné de prendre position tout haut et de dire non. Hein, voilà, devant le monde invisible, pour moi, j'affirme que ce qui me convient, c'est ce qui est vrai en Dieu. Et peut-être que là, justement, cette sollicitation démoniaque disparaîtra parce qu'on aura pris position pour Dieu. Mais ça relève du tenir ferme. Moi, mon but n'est pas d'aller titiller les démons. Hein, mon but, c'est de résister aux démons quand ils viennent vers moi. Le lieu du combat se situant dans l'affirmation de la vérité et la dénonciation du mensonge.
On peut trouver aussi ça par la parole, le fait de dire non, de le confesser. L'action de la parole reste toujours le même, c'est une puissance qui peut résister à l'ennemi. Et dans le sens de confesser la parole de Dieu,
c'est ça.
On arrête l'action de l'ennemi des fois. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans les livres de Job, parce qu'on est quand même dans Job, et puis on est dans Éphésiens, en même temps, on voit un peu, il dit, moi, ça c'est une conviction personnelle peut-être. J'ai dit, Job n'était pas équipé comme ça. Nous, chrétiens, on est équipés. On peut dire non à Satan. Job, il se laisse faire jusqu'au bout, quelque part, parce que Satan agit, ça se perd. C'est toujours jusqu'au moment où Dieu va rétablir quelque chose. Mais attention, nous, dans Éphésiens, avec alliance avec Jésus-Christ, il nous revêtit de quelque chose, il nous donne l'autorité de dire Non, tu peux le faire partir. Tu peux résister. Tu peux garder la foi. Tu es équipé, quoi. Et que Job, lui, il n'était pas équipé. Et souvent, on prend Job, l'histoire des Job, on les balance aux chrétiens comme si c'est des Job. Mais la Bible nous dit, attention, nous, en tant que chrétiens, on a quand même le pouvoir sur certains quelque part.
En relation à ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pour cette raison, alors que le reste de la parole, si on accepte le livre de Job, ne parle de Job que positivement. Regardez Job, regardez la patience de Job.
Oui. Tout à fait. Hein, ce que, autrement dit, le fait qu'il tienne ferme, qu'il persévère en fait dans cette démarche de rencontrer Dieu, il a fini par le rencontrer.
Mmh. Oui, tout à fait.
Alors que d'Élie, il n'en est pas question positivement. Mmh. Hein, dans Romains 11, il est montré justement dans son orgueil. Mmh.
Question de sa prière. Les prières, c'est bien d'Élie. Hein.
Voilà, mais je veux dire que Élie, Job, il en est question toujours positivement. Élie, alors que Élie, il y a...
Le fait donc de dire la parole haute voix, c'est aussi parce que effectivement les puissances de spirituelle méchanceté ne peuvent pas entrer dans le pensée.
C'est ça.
Ils ne connaissent pas nos pensées, donc c'est pour ça qu'il faut verbaliser.
Je crois que c'est le psaume 9 qui dit quelque chose à propos des reins et des cœurs. Est-ce que c'est le psaume 9? Je le chercherai. Il est dit que Dieu sonde les reins et les cœurs. Je crois que c'est par là. Hein. Et c'est dit de Dieu, en fait. Hein. Il sonde. Finalement, les reins, c'est-à-dire ce qui est notre force, hein, ce sein dans les reins, le lieu de notre force, et le cœur, ce qui est le lieu de la décision, le cœur qui est le robinet des pensées. Et je crois que Dieu nous connaît intérieurement, il lit en nous intérieurement, alors que, comme tu viens de le dire, Jean-Paul, les démons ne lisent pas. Hein, c'est un peu une prérogative de Dieu, hein, une exclusivité de Dieu de sonder les reins et les cœurs.
Le psaume 139, il y a quand même question de ça. Dans le droit, il y a écrit verset 13, « Tu as possédé mes reins, tu me tissais, le loyer est écrit, tu sondes mon cœur aussi. » Enfin, c'est la prière du psalmiste, de David, « Sonde-moi, Dieu, connais mon cœur. »
Ah, voilà. C'est psaume 7, verset 9. Hein, toi, le Dieu juste qui sonde les cœurs et les reins.
Je trouve aussi peut-être intéressant, tout à l'heure tu as dit que par l'effort, je pense que la vie chrétienne, en fait, enfin pour mon expérience, j'ai fait une confession de foi. Quand on s'est fait baptiser, on proclame à haute voix, publiquement. On va dire, voilà, on accepte. En fait, des fois, on dit on accepte juste Jésus comme son sauveur, son Seigneur. Des fois, on peut dire aussi on accepte que Dieu nous a acceptés. C'est peut-être des fois mieux dans le sens de dire c'est Dieu qui nous a acceptés avant qu'on l'accepte. Mais la vie chrétienne commence par une confession et qui ne s'arrêtera jamais. Ça passera toujours par la confession de la parole de Dieu. Parce que je pense quand on a décidé de suivre Christ, c'est plus nos paroles qui comptent, c'est la parole de Dieu. Quoi. Et chaque fois qu'on va parler de la parole de Dieu, bien sûr, on ne peut pas vivre 100% en norme avec la parole, il y a toujours des choses qui nous tiraillent. Mais à chaque fois qu'on est fidèle dans notre foi, parce que je pense que la foi, moi, c'est quelque chose qu'on doit être fidèle, ça veut dire Dieu. Si on se tourne un peu à droite, l'occultisme, à chercher des solutions à droite, à gauche, on n'est plus fidèle à la foi, on mélange. On peut avoir la foi en Dieu, mais on peut mélanger cette foi avec beaucoup de choses, des éléments qui tournent autour. Hein? Mais garder une foi pure, pour moi, c'est garder la foi dans ce que la Bible enseigne. Le Dieu créateur et rédempteur et l'Esprit. Et là, on parle aussi de Dieu sonde, Dieu analyse mes pensées ou regarde mes pensées. On peut penser aussi que Dieu vit en moi. C'est plus profond que juste il regarde, il voit. Il vit en moi. Dans cette alliance avec Jésus-Christ, Dieu vit en moi. Dans l'alliance avant avec Job, Dieu ne vivait pas en lui. C'est ce qui fait toute la différence par rapport à nous et Job. Et dans notre alliance, on a une richesse extraordinaire, c'est que Dieu, il ne sonde pas simplement, il vit en nous. Et si on a déjà ça dans nos pensées, ben on commence à dire ben, travaille, et que ce qui sort de ma bouche fasse partie. Jésus dit toi et moi, le Père, il fasse partie de la parole. Ce qui doit sortir de nous, c'est la parole. Mais c'est dans notre relation intime hein, que tout ça s'est fait avec Dieu.
Alors,
après,
oui, vas-y.
Juste, quand tu as parlé des maladies, il y a clairement dit, la maladie ne vient pas de Satan, mais on se pose des questions. Et il m'est venu à l'esprit les maladies psychosomatiques. Parce qu'il y a beaucoup de souffrants, de souffrants en nous-mêmes, hein, qui passent beaucoup de temps, souffrent de maladies. Et quelque part, c'est... si je peux le dire, mais c'est un problème de relation ou avec eux-mêmes, ou avec Dieu, ou avec les autres. Bon, alors là, est-ce que c'est pas la puissance de Satan? On ne peut pas dire ça. Mais...
Si. Ça, voilà. Donc, ce qu'il faut bien dire, c'est que on va un peu délimiter la réflexion en disant que toute maladie ne vient pas d'un péché. Ça, on l'écrit en lettres capitales, gras, rouge, bien visible. Voilà. Cela étant, tout péché produit une maladie. Pourquoi ? Proverbe 8:36 nous dit « Celui qui pêche contre moi, dit la sagesse, fait du tort à son âme. » Donc, tout péché produit en nous des dégâts. On a vu ce matin, avec un commentaire de Romains 8, 11, hein, sur les deux commentaires qu'on peut envisager, l'Esprit de Dieu nous ressuscitera si on est passé par la mort. Ça, c'est un commentaire. Et l'autre commentaire, c'est l'Esprit de Dieu vivifie nos corps mortels. Si on a pris l'Esprit de Dieu, il nous manque quelque chose. Donc, on a un être intérieur dans lequel il y a l'âme, l'esprit, etc., qui est douloureusement touché. Ayant purifié vos âmes, nous dit 1 Pierre 1, 22, par l'obéissance à la vérité. Les convoitises, nous dit 1 Pierre 2, 11, font la guerre à l'âme. Donc, on a des états d'âme quand on déraille spirituellement parlant. Et Jean... L'apôtre Jean va dire à Gaius dans 3 Jean, « Bien-aimé, que tu prospères comme ton âme prospère. » 1 Corinthiens 11, 27 à 30 nous montre que ceux qui prennent la scène sans voir Jésus derrière, peut-être de manière en voulant manger, boire, s'enivrer, etc., eh bien, il est dit, boivent un jugement contre eux-mêmes. C'est pour cela que plusieurs d'entre vous sont malades et même sont morts. Donc, il y a un rapport entre le péché et la maladie. Donc, et Satan est meurtrier dès le commencement, nous dit Jean 8:44. Satan a pour but de nous faire du mal, a pour but que ça ne marche pas bien là-dedans. Et donc, on peut dire que tout péché qui commence à sa source par une non-relation avec Dieu, qui se prolonge, on le verra dans l'homosexualité mercredi ou jeudi après-midi, qui se prolonge dans un mensonge cultivé et qui aboutit dans un comportement contre nature. Eh bien, tout péché qui a sa source, provient d'une non-relation avec Dieu, fait des dégâts dans notre corps. Autrement dit, moi, chaque fois que je suis enrhumé, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une question obsessionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. C'est une question confiante, en fait. Qu'est-ce que tu veux que j'entende, hein? Et le problème d'Asa, je ne sais pas si on en a déjà parlé, hein, dans 2 Chroniques 16, c'est qu'il rechercha les médecins et pas l'Éternel. Et il a été malade des pieds, il a eu de grandes douleurs. Et vous savez ce que veut dire Asa? Je vous le donne en 1000. Médecin. C'est étonnant, hein? Voilà. Donc, sachons, entendre en tout cas dans l'histoire de Job, que dans un sens, Job, Job 3, 25-26, ce que j'appréhendais m'est arrivé. Job ne voulait pas être malade. C'est pas un projet de vie, ça. Ça, c'est un principe du monde. Moi, mon projet de vie, c'est de vivre avec Dieu et dans la perspective dans laquelle Dieu m'envoie. Du bonheur.
C'est intéressant de développer ça par rapport au... En fait, si on est face à une situation comme celle que tu décris, ou quelqu'un qui est souffrant, de le recentrer plus sur Dieu que sur sa maladie. Alors qu'on aurait tendance à travailler le pourquoi de la vie, plutôt que le pourquoi en deux mots, évidemment. Et c'est une tendance simplement naturelle que l'on peut mettre en place.
Début janvier, j'ai eu une exception de voix, je ne suis pas encore remise, en tout cas pour chanter. Et quelqu'un m'a dit ton corps crie ce que tu ne veux pas dire. Je trouve que ça m'a vraiment interpellée. Il y a énormément de vérité là-dedans. Comme quoi, il est bon d'être attentif aux manifestations de notre corps. Alors, je le dis déjà pour nous-mêmes, hein, parce que notre corps, il parle drôlement si on écoute. Franchement, ça m'affectionne. Je ne sais pas si je lui en reparlerai à cette personne, mais franchement, vraiment...
Je ne l'ai pas prévu dans la formation pastorale,
oui.
Mais j'ai, je crois que j'ai fait une fiche même qui s'appelle « Le langage du corps ». Ah, oui. Et où je propose une réflexion sur le fait de connaître notre être intérieur aussi par notre être extérieur. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait de bras, de jambes, un système respiratoire, sanguin, digestif, etc. Et quelle est la symbolique, en fait, des jambes, des reins, du cœur, etc. dans la vie. Hein, voilà. Mais c'est un petit peu poussé, et dans les 3 semaines, voilà, je ne l'ai pas intégré.
Parce qu'il y a même l'apôtre Paul qui donne l'exemple du corps, de bien en fait, de voir oui. Les aliments. Elle raconte ce qu'elle vient de dire. Il y a les mots, quelque part, de pouvoir parler, mais il y a aussi l'autre aspect, parce que tu as nommé plusieurs épîtres de livres qui parlent de maladies. Et Jacques, lui, il t'a dit que ta langue, t'as l'élément important dans la bouche. Si tu dis quelque chose de mal, quelque part, tu ramènes dans ton âme quelque chose de mal. Combien c'est important, on revient sur la même notion, parole, la parole. Et moi, je sais qu'il m'arrive, comme tout le monde, on dit critique, on est en colère, on dit quelque chose qui m'échappe comme ça. Et souvent, quand je suis dans un état comme ça, j'ai la migraine. Je suis contrarié. Pas contrarié forcément, mais contrarié de ce que j'ai dit. Et même si je dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis très conscient d'avoir dit ça. Lui m'a pardonné, mais moi je suis toujours encore un peu culpabilisé. Mais cette culpabilité, on a une migraine. Et je suis contrarié. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien de l'intérieur. Ça provoque une réaction. C'est migraine. Parce que, voilà. Et combien nous chrétiens, Tu l'as dit tout à l'heure, sagesse, fais attention, la façon qu'on parle. Un mot de travers, comme on dit, ça provoque une réaction, etc. Et c'est vrai, c'est vrai, on s'est rendu compte que les petits mots de travers ne vont pas forcément affecter tout de suite la personne qui est en face, parce qu'il y en a qui résistent au mot. Vous pouvez lui dire, c'est que vous dites ce que vous voulez, ils n'en ont rien à faire. Mais ça fait que nous-mêmes d'abord. C'est nous qui l'avons. Parce que ça provoque une réaction dans notre âme. Et c'est pour ça que des fois, on est fragile, on devient de plus en plus fragile, parce que là, après, deuxième action, justement, de le sortir. Par la confession, par pardon, Seigneur, parce que je reconnais, j'ai dit quelque chose de mal. En deuxième temps. Mais en premier temps, je fais rentrer en moi. Parce que Dieu nous a libérés de péché. Et j'ai l'impression que nous, on ramène les choses un peu qui a été réalisées à la croix, on les ramène dans notre vie pour avoir la façon de d'exercer notre langue, le chemin de faire rentrer. Enfin, je ne sais pas si c'est...
Il y a un verset de l'Évangile qui dit ça. C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. C'est
oui. Dans le
sens. Les deux, hein. C'est ce qui sort de l'homme.
Souille. C'est aussi de la bonne
intention. Mais ce qui revient dans l'éternel souille l'homme. Parce que ce qui sort de l'homme, j'ai l'impression que même si on avait du mal en nous, Jésus dit quand même, j'ai crucifié, j'ai éliminé quelque chose.
Ce qu'elle veut dire, c'est que c'est la... Comment dire, c'est pas ce qu'on voit qui nous fait du mal,
ouais.
C'est notre réaction à ce qu'on voit.
Voilà, c'est ça.
C'est pas ce qui rentre, en fait, qui nous fait du mal. C'est la manière dont on l'accueille.
Ouais.
C'est en fait, dans l'expression de Jésus, là, dans l'Évangile, les pharisiens lui reprochaient de ne pas s'être lavé les mains, etc.
Ouais.
Mais c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. Hein.
Ouais.
Autrement dit, mais ça va dans le sens que tu disais. Hein.
Ouais.
Que mettons, quand je parle, ma manière de parler des choses va me faire du bien. Alors, sur Job, qu'est-ce que l'on. Ça va ?
C'est une vraie découverte.
Oui,
c'est super. Et du coup, moi, ça me fait gamberger sur la place du Saint-Esprit aussi dans la vie chrétienne, que j'ai parfois du mal à poser. Et du coup, quand tu vois ce job qui revient sur la relation plutôt que d'être dans le fait, tout d'un coup, tu comprends. Tu comprends la place du Saint-Esprit, Dieu qui est en nous. Alors que quand même, je vois, moi, j'ai une tendance à être un peu formaté dans le fait. Je vais faire quelque chose pour lui. Vraiment, c'est quelque chose de très fort. Donc du coup, même en ayant fréquenté des milieux charismatiques où la notion du Saint-Esprit est beaucoup plus clairement dite, on va dire, c'est quelque chose que j'ai quand même du mal à placer. Du coup, là, ça prend toute sa dimension. C'est dans la relation. Ah voilà, ça m'a fait penser à ça.
C'est ce que dirait le psychologue, être soi aussi. Être soi-même. Et ce qu'il y a d'encourageant dans Job, c'est que Dieu avait la maîtrise jusqu'au bout. Et je pensais à ce verset, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, le Seigneur qui dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et je pensais ça, et Job, Dieu l'a protégé quand même, il a laissé Satan, mais il l'a protégé, et Job maintenant nous a affermis. Quand tu seras revenu, Job restauré nous apprend. Ça, je trouve que c'est vraiment une force de savoir que Dieu a tout de même. On le sait, mais ça fait du bien.
Mmh. Et c'est intéressant, en effet, de voir un cas de crise comme celui-ci. Parce que finalement, c'est avec cette crise qu'on comprend. Je vois pour nous, dans notre vie chrétienne, qu'on veut plus ou moins parfait, on veut plutôt parfait que moi, en fait, on ne veut pas traverser les crises. Et là, on voit que c'est l'occasion de révéler quelque chose à Job, qui est absolument extraordinaire.
Et s'il n'y a pas de crise.
Le révéler, c'est moi qui va c'est en définitive.
Il n'y a pas de connaissance de soi s'il n'y a pas de crise. Alors, on aimerait une vie, même une progression pédagogique de l'enfant et de l'adulte, linéaire, mais c'est les crises qui nous bâtissent, en fait.
C'est vrai que c'est dur à accepter. Enfin, oui, si on n'est pas des combattifs. C'est quand même assez dur, ça.
Ouais.
Non, on n'a pas envie de souffrir.
Moi, j'avais parlé justement de ça dans le corps des Christ. On a souvent des conflits en frère. Le responsable qui lui dit toi tu souffres parce que non, c'est pas toujours évident. Et j'ai compris parce que ça, c'est Dieu qui m'a révélé, parce qu'on a toujours tendance à. On a un côté rébelle en nous, hein, un côté qui ne veut pas soumettre, c'est sûr. Même si, sauf si c'est un très bon responsable qui a une bonne relation, qui prend du temps avec toi. Tu n'as pas besoin de dire soumis, tu le fais tout seul. Hein. Et j'ai compris à un moment donné que, en fait, ton ministère, il est béni, ton caractère est formé quand tu acceptes cela. Sans te laisser vraiment écraser, mais tu l'acceptes. Parce que c'est ce qui va nous former dans notre mentalité du disciple. C'est un bon caractère. Et tous les conflits qu'on peut avoir avec les amis, vis-à-vis des autres forment le caractère aussi. Si par exemple quelqu'un t'envoie des flèches, tu as envie de prendre cette flèche, tu le renvoies. Mais si tu lui prends cette flèche, tu le renvoies avec l'amour, ben tu agis chez le caractère écrit, c'est ce qu'il a fait. Et que souvent, nous, on est tellement, on va vite, 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 on prend les flèches, on renvoie, mais pour faire du mal aussi. Et on repasse pour la parole. Et que Christ, lui, dit, dans sa parole, il dit, ben je regarde, comme Dieu dit, je cherche un homme selon mon cœur. Qui va dire ça, David, je cherche un homme, c'est un homme selon mon cœur. Mais comment on peut être un homme selon le cœur de Dieu si on a un caractère rebelle? C'est difficile. Mais par contre, si on a pris des coups, et avec ces coups, notre caractère est formé dans l'amour, ben Dieu va dire, je chasse une personne pour l'envoyer là. Ah ben, celui-là, il est prêt. Parce qu'il a passé déjà par des tempêtes, et il a su répondre. Il a répondu par rapport à ce que je dis, par rapport à la grâce. Et c'est celui-là que j'ai choisi pour l'envoyer. Et quand tu prends celui-là, il l'envoie, il va accomplir sa mission derrière. C'est intéressant de voir ça, parce que j'ai passé quand même dans des années à toujours me prendre la tête avec les gens, des fois. Et puis un jour, j'ai dit, ah, c'est ça que tu veux. C'est ça qu'il fallait que j'entende. Mais j'ai entendu la voix de Dieu. Et maintenant, c'est vrai que c'est super de pouvoir accepter les différences, accepter nos différences, accepter nos différences. Parce que je pense que Dieu est quand on accepte les différences.
Sur Job, on s'arrête là. Ça va? Il y a pas, oui, vous avez noté d'autres choses? Non?
J'arrête alors l'enregistrement.